Culture.
Culture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission placée sous le signe de la boucle. Je m'explique. À sa naissance en 2009, Transversart consacrait une de ses premières émissions à la 10e Biennale d'art contemporain de Lyon intitulée « Le spectacle du quotidien ». À cette occasion, nous avions rencontré le commissaire de l'événement, Hu Hanzhou, avec qui nous avions discuté des rapports entre art et quotidien. Pour écouter cette émission, n'hésitez pas à visiter les archives de Transistor, l'onglet est en bas à droite de la page où vous vous trouvez actuellement.
Vous ne pouvez pas vous perdre.
L'art et le quotidien, nous y revenons aujourd'hui à travers un motif incontournable, l'appartement. Dans une première partie, je vous proposerai de parler de l'art dans l'appartement. L'art chez soi, par opposition au cadre public des musées et autres galeries, qui sont d'ordinaire les lieux officiels de l'art. Après avoir discuté de l'art dans le quotidien, nous vous parlerons de la manière de faire de l'art avec du quotidien, n'est-ce pas Célia ?
Exactement Nina, nous allons passer d'un appartement à un autre pour explorer le potentiel poétique des objets ordinaires. Avez-vous déjà vu, chers auditeurs, un balai frottant les cordes d'une guitare ? Une chaise avec des plumes, des verres à vin accrochés sur un pneu de voiture ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si Nina a préféré laisser planer le mystère quant à la première partie de l'émission, je vais tout de même vous éclairer un peu à propos de la deuxième partie. Je vous propose d'entrer au musée Gadagne qui est consacré aux marionnettes du monde et qui se trouve au cœur du Vieux Lyon. Ce musée accueille en ce moment la dernière exposition du Turac Théâtre qui s'intitule « Appartement de témoin ». Créée en 1985 par Michel Lobu, la compagnie Turac se focalise sur la recherche autour de l'objet et cherche à en exploiter toutes les ressources artistiques et poétiques. Marionnettes contemporaines, poésie bricolée et exploration plastique se rencontrent dans ses créations et développent un théâtre visuel tout-terrain, nourri du détournement des choses, des pensées et du langage.
Eh bien, avant de dévoiler le mystère de cette première partie, permettez-moi de faire encore un détour et de vous rappeler que l'an dernier, en rencontrant Hu Hanzhou, nous lui avions parlé d'une action qu'il avait menée dans les années 90, nommée « Rencontre dans un couloir ». Hu Hanzhou et sa compagne, Evelyne Joanneau, ouvraient alors leur lieu de vie à des artistes pour leur proposer d'y organiser une série d'événements artistiques hors de toute emprise institutionnelle. Ces initiatives, issues du désir de sortir l'art du musée et de l'emmener chez soi, de faire glisser les frontières entre public et privé, se sont multipliées depuis les années 80, et notamment depuis l'exposition « Chambre d'amis » organisée en 1986 à Gand par Yanout, et où des artistes avaient été invités à créer une œuvre dans les appartements d'une soixantaine de particuliers. Visiter l'exposition « Chambre d'amis », c'était donc aller d'appartement en appartement. Et c'est précisément dans un appartement, voici, je lève le mystère, Célia, un appartement que je me suis rendue. C'était au 18e étage d'une tour au-dessus du quartier de Belleville, à Paris, où Andrea Weisbrod et Émile Senwald ont transformé leur lieu de vie en lieu pour l'art. Dans le cadre de ce projet nommé Café au lit, ils organisent des expositions, des soirées artistiques, et lorsque vous sonnez à leur porte, ils vous ouvrent. C'est ce que j'ai fait. Et je vous propose maintenant d'entrer dans ce lieu inattendu.
Bonjour, c'est Andrea.
Enchantée, Nina.
C'était facile à trouver ?
Oui, très bien.
Alors, je vous explique déjà un peu.
Volontiers, ouais.
Café au lit, c'est un appartement, c'est une sorte de project room.
Ouais.
Qui est dédié à l'art contemporain.
D'accord.
Et c'est notre propre appartement, donc
un vous y vivez
appartement dans... privé où on habite avec mon mari et nos enfants.
Depuis combien de temps ?
Ici, on est depuis presque 3 ans, mais Café au lit existe depuis presque 11 ans. On a commencé quand on est arrivé à Paris. Quand on a commencé, c'était toujours dans le quartier, à l'autre côté de la rue de Belleville. Mm-hmm. Dans un appartement dont vous voyez la vue ici. Parce que c'est aussi un peu le principe de Café au lit, de pas simplement faire des expositions, mais d'essayer de passer des commandes à des artistes qu'on expose.
Oui, j'ai vu que chaque artiste, après être exposé ici, laisse une œuvre
Normalement, oui.
D'accord.
Ça dépend aussi de nos moyens, mmh. parce qu'on est strictement privé. Nous ne sommes pas une galerie.
D'accord, vous n'avez pas le statut de galerie?
Non, pas du tout. On ne vend pas, on ne vend jamais. Donc, ça dépend toujours de nos moyens, si on peut ou pas. Mais normalement, on tâche pour chaque exposition de passer une commande. Et là, c'est une photographe, artiste, peintre suisse qui s'appelle Corina Bezzola et qu'on a exposé à 3 reprises à Café Oli. Ah, c'est Amy qui arrive.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Et quand les artistes laissent des œuvres ici, elles sont en lien avec le lieu, généralement, il y a un travail de l'in-situ.
Là, Corina, pas forcément, mais je vais vous montrer. On a un autre ici. Là, on voit une installation. Ce sont les 2 murs peints en noir avec l'écriture et les 2 collages qu'on voit également sur les 2 murs. C'est une artiste berlinoise qui s'appelle Barbara Breitenfellner. Oui. Qu'on a exposé, c'était la première exposition qu'on a fait ici. Et Barbara a fait ça, a développé ça vraiment pour l'appartement. Et chaque artiste qui vient doit aussi s'arranger avec cette situation, oui. avec des œuvres qui sont déjà là. Il y a les artistes qui entrent dans un dialogue avec les œuvres qui sont là. D'autres qui refusent et qui prennent un petit coin où les autres œuvres ne sont pas visibles. Et c'est aussi assez intéressant.
Et donc l'idée, c'était renforcer le côté de production. Donc demander aux artistes de produire une œuvre in situ qui reste sur place. Puis après, renforcer aussi le côté rencontre. Parce que pendant l'activité, ça fait maintenant presque 10 ans
qu'on
fait. Oui, 11 ans, oui. On s'est rendu compte qu'il y a une demande, une nécessité, un besoin du côté du public à rencontrer les artistes, à rencontrer les gens du monde de l'art, mais pas seulement pour faire du social network, quoi. C'était pas ça. C'est pour cela, on va au vernissage. Mais surtout pour trouver un moment, disons intime ou détendu de toute manière, pour notamment discuter autour de l'art.
Et justement, vous écrivez, je crois que c'est sur votre site, que ce qui comptait pour vous est... qui était pour vous lié à la rencontre de l'art contemporain, c'était 3 éléments, la temporalité, la sociabilité et l'intimité. Mmh. Du coup, me demandez comment est-ce que vous pensiez l'association précisément du social et de l'intime, que d'habitude on oppose complètement, d'autant plus quand il s'agit du cadre de l'art, où on a l'espace public du musée, et puis ensuite, éventuellement, le collectionneur privé, qui lui peut rencontrer l'œuvre dans l'intimité. Donc comment se nouait intime et social.
Ça se joue pas seulement au niveau de visiteurs, ça se joue aussi au niveau de la production. C'est-à-dire, au moment où on accueille un artiste, on est tout de suite dans un rapport autre à un rapport qu'on a quand on monte une exposition dans une institution, dans une galerie, dans un espace public. Donc déjà, lors de la production, il y a quelque chose qui se passe avec l'artiste qui est de l'ordre de l'intimité, si on veut, parce que...
Et là, puis... c'est notre chambre d'amis, donc voilà. L'artiste s'installe là et on mange ensemble, on est là.
Et puis après le public qui vient, un autre accès, si on veut, à cette situation d'exposition. C'est-à-dire, on est dans un cadre intime, c'est-à-dire, en fait, il y a d'autres codes, il y a plein de choses qui jouent et qui change absolument l'expérience de l'œuvre d'art. Parce que franchir le seuil d'une galerie, c'est autre chose que franchir le seuil de chez quelqu'un. Si on veut ce qui est de l'ordre de l'intime, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec un espace privé. Et puis après, ce qui est de l'ordre de social, c'est ce qui va se développer. Il y a des gens avec lesquels on a enchaîné avec une collaboration, notamment là avec la revue Roven, qui a fait une soirée magnifique ici. C'est une revue spécialisée au dessin contemporain. Et en fait, il y avait une soirée avec une performance là. C'était un artiste, Antonio Contador, qui a lu tous nos livres.
Tous nos étagères.
Donc, il a vidé
tous les
étagères. Et vous voyez bien qu'il y en a beaucoup. Donc ça faisait... Il les a lus, il a mis 3h30, je crois. Ouais. Hein,
mais
avec
bon,
une technique un peu...
Il a pris chaque livre...
Donc il s'est vraiment saisi de l'environnement domestique.
Il a vraiment utilisé, oui. Puis après, ici à la table, il y avait un groupe d'artistes qui font du dessin... qui
s'appelle Moms, ils sont à Reykjavik.
et ils étaient présents par vidéo Skype. D'accord. Et donc ils ont dirigé notre artiste qui a fait un dessin ici sur place. Et donc, y a, dans le bureau à côté, il y avait des artistes à Finlande, pareil, par vidéo Skype, mais là, c'était l'inverse. Eux, ils étaient en train de faire un dessin sur place, chez eux. Et ici, les visiteurs avaient la possibilité de les diriger, d'intervenir.
Ouais,
et voilà, il y a donc...
Le monde entier se retrouvait dans la maison.
Bah, si on veut. Voilà, si on reprend cette idée d'intimité sociale... C'est ça aussi, oui, en fait, à élargir l'espace du, privé.
Mais est-ce que du coup, à ce niveau-là, vous avez précisément quand même l'impression de vous inscrire dans une tendance ? Parce que si on a l'impression que ce désir de recréer une intimité autour de l'art, par opposition peut-être au modèle du musée un peu dépersonnalisant, progresse peut-être si on prenait comme point de départ l'exposition de Yanout, les chambres d'amis mm-hmm. en 86, comme s'il y avait plusieurs mm-hmm. voilà, manifestations où vous en faisiez partie, vous avez l'impression de vous inscrire dans une tendance critique, finalement, par rapport au rapport qu'on nous encourage d'habitude à avoir avec l'art.
L'idée de Café Oli est venue d'une œuvre d'art qui a été mise en place par Martine Eder et une artiste dont j'oublie toujours le nom.
Lisa Jonghans.
Voilà, Lisa Jonghans.
Son partenaire de l'époque.
À l'époque, oui. C'était pendant un Documenta X de Catherine David. Et ils se sont inscrits dans cette tendance d'artistes, devenir entrepreneur, créer une entreprise, comme une agence, truc machin. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont loué un appartement de 5 pièces à Cassel. Et ils en ont fait un hôtel. Donc, il y avait un hôtel avec 5 chambres. Et ce qui était génial de cette démarche, c'était qu'on pouvait rencontrer vraiment le monde entier du monde de l'art. Parce que tout le monde est venu là-bas. Il y avait des directeurs de musée, donc on s'est retrouvé dans une situation très détendue, et si on veut niveliser, parce qu'il n'y avait pas d'hierarchie, même si on rencontre un directeur très important, voilà,
le matin, tout le monde a mangé son café. Ses céréales. Et, voilà.
Et là, pour le coup, c'était juste la rencontre, il n'y avait pas d'œuvre,
dans les chambres, tout le mobilier, tout ça, ça a été créé par les artistes, et on pouvait l'acheter.
Donc mais il n'y avait pas des œuvres sur les murs étaient blancs, mais c'était plutôt mobilier qui a été fait par des artistes et
pour l'occasion avant, et donc ça, cette expérience là ça a déclenché chez nous l'idée qu'on est arrivé à Paris à refaire un truc pareil. Donc si on veut, on s'inscrit certainement dans un mode de fonctionnement qui veut qu'on ouvre l'espace privé, souvent par ailleurs aussi par précarité. En fait, il y a plein d'artistes ou commissaires qui ont commencé, Hans-Ulrich Obrist dans sa cuisine, parce qu'il n'avait pas d'espace d'exposition. Mais notre idée, dès le départ, c'était surtout de recréer cette situation de rencontre. Donc, c'était moins l'idée d'utiliser l'espace privé pour en faire une vitrine, c'était plutôt utiliser l'espace privé pour créer cette rencontre au cœur de l'art.
Et pendant longtemps, on a toujours loué les cafés au lit qu'on avait. Entre-temps, entre l'ancien appartement et ici, on avait un café au lit qui n'était pas dans notre appartement, c'était un petit studio qu'on avait pendant 2 ans et qui était alloué.
Celui que vous louiez, voilà.
Pour comme un art hôtel.
À des particuliers de vivre un peu l'expérience du collectionneur qui vit avec ses œuvres quotidiennement. Exact.
Et c'était vraiment ça aussi, une des idées à l'origine, de permettre aux gens de vivre avec de l'art, parce que c'est autre chose quand je vois, quand je vais dans un musée ou dans une galerie, je regarde l'œuvre peut-être pendant 30 minutes, après je m'en vais. Et là, je peux vraiment, le matin, je peux tartiner ma tartine en regardant une photo, je peux voir comment pendant la journée la lumière change. Je trouve que c'est toute autre chose.
Oui, tout à fait.
Et vous avez justement, quelles sont les réactions des gens, soit qui viennent visiter, soit qui peuvent habiter, de percevoir l'art dans un cadre domestique, dans un cadre auquel ils ne sont pas habitués?
Souvent, les gens sont très étonnés que quelqu'un ouvre son propre lieu comme ça à des gens qui ne connaît pas.
Ça, c'est une spécificité française.
Ouais.
Aussi, parisienne, parce que en fait, à Paris, on a tous les codes de porte, ce qui est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en Allemagne. Et ça ah, nous a étonné. Oui, oui, ça n'existe pas en
Allemagne. En Allemagne, on peut sonner, on a le nom,
il y a même une sonnette. Très rarement
c'est vrai,
des
avant, il y avait des interphones à l'extérieur en France, ouais. Et c'est de plus en plus remplacé
des codes,
par des codes.
Pour, ouais.
Et ça nous a très étonné parce qu'il faut déjà connaître la personne, parce il faut pouvoir la contacter pour notamment rentrer chez quelqu'un. Et ça, c'est, quelqu'un, c'est quelque chose qui, voilà, qu'on ne connaissait pas. Et à partir de là, on s'est rendu compte qu'en fait, l'espace privé, c'est quelque chose de très protégé ici, de très...
Puis d'avoir aussi la surprise de découvrir quelque chose de différent, mais aussi de retrouver des choses de chez soi, des choses tout simples comme un robinet, des toilettes, une gazinière, mis en confrontation avec des objets d'art, alors qu'on est habitué à les voir dans un milieu d'habitude complètement privé de toutes tout ces choses matérielles, domestiques.
Donc vous voyez bien que là, avec l'intervention de l'architecte, on a quand même déjà joué un peu le côté de White Cube. On a décidé de mettre les murs en blanc et pas colorés. Donc on a pris un certain nombre de je dirais, précautions, c'est pas bien, en fait, de modes d'installations qui sont déjà connues par les galeries et les institutions. Je connais un collectionneur qui ouvre son appartement que pour un nombre restreint d'invités. Là, dans l'appartement, c'est le bordel. C'est complètement autre chose. Les choses sont empilées, il y a des œuvres d'art partout. Et au cœur de ça, il y a une exposition temporaire où on peut regarder et on découvre plein de choses. Mais c'est complètement autre chose. C'est encore plus intime, si on veut.
Une autre réaction qu'on a souvent quand les gens arrivent, ils sont très étonnés de retrouver dans un tour comme ça, un appartement comme l'autre, et aussi la vue qui attire beaucoup.
Oui, bien sûr.
Et donc, souvent, les gens sont aussi penchés
sur les fenêtres. Si on voit tout Paris, la pièce est quasiment entièrement en fenêtre.
Ouais. Et ça, c'est une autre réaction. Et on a réalisé que aussi ça, mettre les gens vraiment à l'aise. Et souvent, on les retrouve avec un verre de vin, avec quelqu'un d'autre en train de parler, de regarder.
Il est vrai que presque tous les visiteurs qui viennent regardent d'abord par les fenêtres avant qu'ils regardent.
Avant de regarder les œuvres.
Merci à Café Oli de nous avoir ouvert ses portes. Et tournons-nous à présent vers le musée Gadagne. Pour l'exposition Appartement témoin, imaginez un habitat momentanément vidé de ses occupants. Michel Lobu s'est emparé des quatre pièces, cuisine, chambre, salle de bain et salon, pour en faire un cabinet de curiosités où meubles et objets du quotidien se mettent en mouvement. Chaque pièce devient un îlot abritant un microcosme et des vies minuscules, pour ne pas reprendre bien sûr Pierre Michon, dans cet appartement devenu archipel. Le temps d'un reportage, nous vous invitons à découvrir l'ambiance de cette exposition et les réactions qu'elle suscite chez les petits et les grands. Vieux Lyon, place du Petit Collège, nous y sommes, nous nous trouvons devant l'appartement envahi par l'imagination délirante de Michel Lobu. Place à un voyage en poésie bricolée pour auditeurs en promenade. Le théâtre d'objets, forme théâtrale qui se développe dans les années 1970, désigne un théâtre au centre duquel se trouve l'objet. L'objet qui devient personnage acquiert une dimension poétique. L'objet qui renvoie à la mémoire individuelle crée une complicité avec le public. L'objet, forme inanimée, forme triviale, crée la distance entre le comédien et le spectateur. Il autorise à toutes les transgressions et plonge le public dans d'autres mondes. Voilà ce que dit Michel Lobu pour présenter son travail. Enfant, je restais longtemps à désarticuler des lampes de poche et à en réorganiser les précieux éléments sur des boîtes à chaussures. J'aimais et j'aime toujours cette poésie-là, cette confrontation entre l'objet étrange créé et la quotidienneté des éléments qui le composent. Le système terminé se révélait toujours complètement inutile, mais devait pourtant être en état de marche. Ces fonctions inutiles stimulaient mon imaginaire, des règles du jeu s'installaient, un monde se tissait, prenait forme autour de cet événement. Se structurant, associant d'autres objets simples ou transformés, un autre monde naissait, avec une autre logique, sa propre cohérence. Je retrouve cette même approche dans mon cheminement de création, lors d'un nouveau spectacle. Jamais il ne s'agit de raconter un événement ou une anecdote, mais plutôt de découvrir un monde au sein de nos objets quotidiens.
À mon avis, c'est plus étrange et effrayant que ludique.
Ouais.
Comme travail. Fin...
Qu'est-ce qu'on voit alors ?
Alors on voit une balayette en train de balayer justement les cordes d'une guitare, une guitare électrique, ainsi qu'une suite de banjos.
Oui, je crois que c'est des banjos.
Qui, au rythme de la balayette, montent ou descendent pour actionner des cordes. Un cheval train. Bien sûr, on est vraiment dans un univers à lui, quoi. On a l'impression de pénétrer vraiment. Je découvre et je m'immerge complètement.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux thèmes qui traversent cette exposition. C'est d'une part donc le détournement du quotidien et d'autre part tout le thème de l'île, de l'insularité. Tu vois ce que je veux dire ?
Plutôt insulaire, mais en même temps, hein, le lieu du musée nous met quand même dans une espèce de petit monde cocon bien à lui, où il y a justement ces scènes familières, la chambre, la salle de bain, la télévision, le salon.
Là, je vois... Attends, j'ai pas encore regardé ce tableau. Moi, c'est un délire à partir de personnages, d'animaux, de... C'est un univers... Bon, je connais un peu parce que je connais Michel Lobu, donc je ne suis pas surprise, mais il faudra y revenir 10 fois tellement il y a des détails.
Vous, que vous inspire ce détournement du quotidien qui est le propre du travail de Michel Lobu ?
Je me dis que quand on entasse tous les jouets, tout ça, des enfants, on ferait bien de leur faire faire un peu de ce genre d'atelier pour que l'imagination continue la vie de ces objets, parce que, hélas, ils sont mis au rebut et que là, on a un univers génial.
Là, qu'est-ce que vous voyez ?
Moi, je vois surtout le ventilo qui met en place toute une... qui met en route la musique, quoi. Qui déclenche, par exemple, les couteaux avec le vent. Sinon, plein de mécanismes qui se mettent en route.
C'est un circuit d'objets. Ouais. Oui. Est-ce que vous connaissez le travail de Michel Lobu, déjà ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous découvrez ?
Ouais, on découvre. Ouais.
Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce détournement des objets du quotidien
C'est très surréaliste, en fait. Ouais. Ça me fait penser un peu à Dali. Je sais pas pourquoi. Peut-être les animaux.
Ouais.
Ah, c'est les six, c'est extra. Dire tailler la pierre, par contre, c'est pas facile.
T'as vu les brosses de dents?
Ah oui, même les brosses à dents, elles vivent, hein? C'est ça?
Alors voilà quelque chose que je n'avais pas vu au début, c'est le réfrigérateur, puisque le congélateur est devenu le point de départ d'un espèce de circuit automobile. Il y a plein de petites voitures d'enfants qui sont entassées.
Et franchement, je suis surprise, je trouve ça drôle. Ouais, pour moi, c'est insolite, quoi. C'est des choses comme ça, donc ça me laisse un peu sans quoi.
Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous rappelons que l'exposition Appartement Témoin se tient au musée Gadane jusqu'au 10 avril 2011, ce qui vous laisse le temps, vous aussi, de vous perdre dans cet appartement fantasmatique. Et pour en savoir plus sur le projet Café au lit, rendez-vous sur leur site www.caféaulit.de.
À très bientôt pour une prochaine émission de Transversart. Nous vous annonçons déjà qu'après l'espace de l'appartement, nous parlerons de l'espace urbain en vous proposant une balade lyonnaise. Mais d'ici là, n'hésitez pas à écouter cette semaine « Il y a une vie après le normal » où les filles interviewent Patrick Hubert, avocat.
À très bientôt à tous.
Au revoir.